Le diable est l'accusateur, il veut nous faire tomber, il veut nous rendre malheureux, mais l'Esprit Saint est un défenseur. Jésus nous dit « Je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous ». Et ce défenseur n'est pas un simple ange comme le démon. Le défenseur de l'Esprit Saint est une personne divine. Il est un autre défenseur, le premier défenseur étant Jésus, qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés et nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Et je voudrais dans un premier temps, ce matin, approfondir cet événement de la Pentecôte et voir l'œuvre de l'Esprit Saint en nos vies, notamment à travers le don de piété, et comment ce don de piété va jusqu'à influencer les moindres détails de notre existence, jusqu'à notre façon de voter. L'événement de la Pentecôte, nous l'avons entendu dans la première lecture, le 50e jour après Pâques, tous les disciples sont réunis ensemble, il y a une manifestation extérieure du Saint-Esprit comme un violent coup de vent, des langues qu'on aurait dites de feu qui se partagent et qui se posent sur chacun des disciples qui sont là, les 120 disciples, et tous furent remplis d'Esprit Saint. Quand Jésus est venu dans ce monde, son humanité est déjà remplie d'Esprit Saint. Et le jour de la Pentecôte, il diffuse cette présence du Saint-Esprit sur le corps de son Église. Et cette présence ne s'arrête pas à aucun moment de l'histoire de l'Église catholique. Et dans des moments plus difficiles de son histoire, l'Esprit Saint agit de façon encore plus visible. Il y a un peu plus de 50 ans, à la fin des années 60, il y avait une vague d'athéisme dans les jeunes de cette époque. Ce n'était plus la foi catholique qui était vue comme libératrice, mais c'était les auteurs athées. Et certains écrivaient sur les murs « Dieu est mort ». Au même moment, dans l'université américaine, des étudiants catholiques faisaient une retraite sur le livre des Actes des Apôtres et ils sortaient de la chapelle pour rejoindre la salle de conférence. À ce moment-là, une jeune femme, Patty Mansfield, était restée en train de prier au fond de la chapelle. Et le Seigneur a fait un miracle. Il l'a déplacée sans qu'elle touche le sol. Elle s'est déplacée jusqu'au tabernacle. Et là, il lui a donné un don particulier d'une présence du Saint-Esprit. Et c'était le début du renouveau charismatique catholique. Alors que la mode était l'athéisme, eh bien le Seigneur a suscité des groupes de prières, de nombreuses conversions, des miracles, comme une réponse à ce défi de l'époque. Et ce mouvement continue encore, bien sûr, et vous savez que la communauté d'Emmanuel, qui est au service de votre paroisse, en est issue. Pour ma part, j'ai bénéficié, comme modèle de mon formateur, quand j'étais séminariste, de mon responsable, Monseigneur Dominique Ray, dont on parle pas mal en ce moment, qui est pour moi un véritable témoin de cette soumission au Saint-Esprit. Alors rassurez-vous, pour recevoir le Saint-Esprit, il n'est pas nécessaire automatiquement de faire partie du renouveau charismatique, parce que tout baptisé en état de grâce bénéficie de la présence du Saint-Esprit. Et nous sommes tous appelés à le prier. Et quand nous recevons les sacrements, quand nous adorons le Seigneur Jésus, quand nous participons à la messe, eh bien le Saint-Esprit vient à nous. Il vient à nous avec ses 7 dons. Ces 7 dons sont rapportés par le prophète Isaïe au chapitre 11. Le don de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de science et de piété et de crainte du Seigneur. Ces dons nous rendent plus dociles à la présence de Dieu. Par exemple, le don de conseil nous aide à faire la volonté du Père, à la connaître. Le don de force nous aide à dépasser les tentations du démon. Et le don de piété, qu'est-ce que c'est ? Saint Thomas d'Aquin nous dit que le don, la piété, est le fait d'aimer nos parents. Voilà, c'est la relation filiale, aimante envers nos parents. Bien sûr, envers Dieu, nous avons une dette envers lui, car nous recevons tout de lui. Il nous aime, il nous fait exister, il nous donne cette création, il nous a sauvés. Et donc, en toute justice, nous sommes appelés à lui rendre un culte public, c'est ce que nous faisons durant cette messe, à l'aimer en retour. Mais il y a une particularité dans notre amour du Seigneur, ce n'est pas simplement un acte de justice, c'est cela, mais c'est aussi un acte filial, une relation d'enfant à père, une tendresse, une spontanéité envers Dieu le Père. Voilà ce que nous avons entendu dans la seconde lecture. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Abba, c'est « Père » en hébreu. En Israël, quand les enfants sortent de l'école, ils voient leur papa, ils disent « Abba, Abba ». C'est un mot tout à fait tendre et familier, et c'est une invitation que nous, recevons d'avoir cette relation intime, profonde avec Dieu le Père. Un autre effet du don de pitié, du don de piété, c'est notre relation avec les autres personnes. Si nous sommes enfants du Père, tous les baptisés sont nos frères. Et donc nous sommes appelés à avoir des relations fraternelles, familiales avec eux. Non seulement avec eux, mais tous les hommes sont appelés un jour à être baptisés, Dieu les invite à le faire, et donc ils le sont en puissance, et nous sommes appelés aussi à avoir cette relation familiale, fraternelle dans nos relations humaines. Cela implique beaucoup de choses, même une certaine façon de voter. Il y a quelques années, dans mon ancienne paroisse, une personne qui a une trisomie 21 a dû passer une étape administrative pour avoir le droit de voter. Donc elle se présente devant un juge, et le juge lui pose plein de questions, notamment celle-ci, mais comment vous faites quand vous allez voter? Et elle dit, donc je prends un bulletin, je vais dans l'isoloir, et elle répondait avec beaucoup d'humour et de sagesse. Et elle dit, et je prie le Saint-Esprit. Et je prie le Saint-Esprit. Voilà, voter, c'est une action citoyenne, mais c'est aussi une action chrétienne. Nous sommes appelés à prier le Saint-Esprit pour éclairer notre vote, et non pas pour se dire, je vais voter pour ce qui est le plus intéressant pour moi, bien sûr c'est cela, mais je vais voter pour le bien de mon compatriote. Je vais avoir ce don de piété qui va faire que je recherche le bien de ceux qui m'entourent, voilà, comme nous recherchons le bien de nos frères et sœurs. L'Église, inspirée par le Saint-Esprit, en 2002, a écrit un texte qui s'intitule comme cela, « Le comportement des catholiques dans la vie politique ». Nous pouvons le trouver sur Internet, je vais juste le résumer. Le comportement des catholiques dans la vie politique. L'Église ne fait pas de politique, je ne vais pas vous dire pour qui voter, mais l'Église nous donne des principes moraux qui éclairent notre vote. Après, c'est avec le don de conseil que vous, chacun de vous, pourrez trouver quelle est la bonne personne que vous choisirez. Le premier principe moral, alors je précise, un moral, hein, ce n'est pas apprendre dans le sens négatif, la morale chrétienne, c'est pour le bien des autres. Le premier principe moral, c'est le droit à la vie. Car si nos concitoyens n'ont pas le droit à la vie, le fait de trouver un travail, d'avoir une juste liberté d'expression, d'avoir un système de santé intéressant, etc., tout cela s'évanouit. Au cœur du droit humain, c'est le droit à la vie. Et donc, le refus de l'avortement et de l'euthanasie. Le respect de la dignité sacrée de tout être humain. Deuxième élément, c'est là où se construit la personne humaine et le fondement de la construction de la personne humaine, de sa croissance, c'est la famille. La famille fondée sur le mariage entre des personnes de sexe différent, parce que l'homme et la femme sont complémentaires pour la croissance de l'enfant. Après, je vous donne tout le reste un peu en résumé. Il y a d'autres choses, hein, je vous rassure, il y a sûrement d'autres éléments que vous trouverez de vous-même adaptés à la situation actuelle de notre pays. Je vous donne quelques éléments. La liberté d'éducation des enfants, qui est un droit inaliénable des parents. La libération des victimes des formes modernes d'esclavage. On peut penser à la drogue ou à la pornographie. Le droit à la liberté religieuse. On peut penser au fait que l'Église a le droit d'agir publiquement, d'avoir une parole publique, une économie qui soit au service de la personne et du bien commun, la recherche de la paix et sans être simpliste, en n'oubliant pas la complexité des raisons des guerres. Tout cela sont des éléments qui éclairent notre vote. Pourquoi ? Non pas pour un parti ou autre, mais comme catholiques pour chercher le bien de nos contemporains, car par le don de piété, nous les considérons comme nos frères. Dans la première lecture, nous avons entendu qu'il y avait à Jérusalem, au moment de la Pentecôte, des juifs religieux venant de toutes les nations qui étaient là en pèlerinage. Et ils vont entendre le message de l'Église, chacun dans leur propre langue. Et c'est là que va naître l'Église. Et 2000 ans après, nous bénéficions de ce miracle et nous pouvons expérimenter concrètement que ce qui s'est passé il y a 2000 ans continue de l'être, puisque maintenant il y a 2 milliards de baptisés. Plus 3 aujourd'hui. Eh bien, si le Seigneur a voulu se répandre parmi toutes les nations, c'est qu'il veut le faire aussi pour notre pays, la France. Aussi, en ce temps de Pentecôte, prions l'Esprit Saint pour notre pays, pour qu'il reconnaisse que Dieu est la source du vrai bonheur et que nous sommes frères. Amen.